Au moment où l'Église se désincarne à nouveau, en ce premier dimanche de confinement, où la communauté du 73 devient à nouveau un réseau 2.0, un corps numérique, eh bien l'idée d'évoquer la corporalité de l'Église m'a paru intéressante. Peut-être même prioritaire et déterminante. Parce que les temps que nous traversons ne doivent jamais devenir une nouvelle norme. Parce que la présence à distance, comme façon d'être ensemble, n'est pas dans la pensée biblique. Alors je vous invite à réfléchir avec l'apôtre Paul sur cette idée d'Église comme corps spirituel. Notre époque, en tout cas dans sa version occidentale, tient en très haute estime le corps. Il faut qu'il soit sain, fort, jeune, beau, immortel, botoxé si on n'arrive pas à le maintenir en état. Les salles de fitness sont pleines, sauf ces jours-ci, je crois. Les cours de yoga, de pilates, de méditation, dans toutes les formes possibles, imaginables, font recette. Et alors, les nouveaux savants de la diététique publient à tour de bras « Nous sommes devenus une société somatique ». Le corps, le soma en grec, y est représenté comme un véritable objet de culte. D'ailleurs, il y a une expression, le culturisme, hein, qui est finalement la nouvelle religion, on pourrait dire. Il n'en a pas toujours été ainsi. Surtout dans nos milieux protestants, le corps a souvent été compris comme le lieu des désirs coupables. Le corps comme une sorte d'entrave au plein accomplissement de l'être. Le corps comme prison de l'âme. Mais cette vision qui est très culpabilisante du corps a très peu de soutien biblique. Au contraire, nous venons de lire, d'entendre des paroles qui honorent le corps, ses aptitudes, ses performances. Paul choisit le corps humain comme métaphore, comme image du corps christique qu'est l'Église. C'est dire s'il le tient en haute estime. Et ce regard positif de Paul s'inspire du regard que le Christ portait lui-même sur les corps. Au fil de l'Évangile, ainsi, on voit Jésus toucher des gens, même ceux qu'on ne touche plus, que plus personne ne touche. On le voit souvent poser ses mains sur ceux qui viennent à sa rencontre. Les enfants, les malades. Il se laisse toucher aussi, comme par cette femme à Béthanie qui répand sur lui du parfum et qui l'essuie de ses cheveux. Et si le corps est devenu tabou au fil de l'histoire de l'Église, il ne l'est pas dans l'Évangile. Dans la vision biblique, l'homme ne possède pas un corps. L'homme est son corps. Pas plus que cette division corps, âme, esprit, que l'on trouve d'ailleurs dans l'Évangile, dans la Bible, ne cherche à isoler des réalités indépendantes les unes des autres. Je me souviens de ce bien-aimé collègue qui déclarait souvent sa passion pour les âmes perdues. Comme si on pouvait ne s'intéresser qu'à la partie spirituelle d'un individu et laisser de côté le reste de son humanité. Mais cela n'a aucun sens. Et d'ailleurs, un mouvement protestant très célèbre comme l'Armée du Salut a bien compris, avec ses trois S, soupe, savon, salut, que on ne peut prendre soin de l'âme de quelqu'un sans avoir pris auparavant soin de lui, de son corps, de ses besoins. La foi chrétienne se construit sur deux événements fondateurs qui mettent le corps en avant. Il y a d'abord Noël, où Dieu prend corps en Jésus. Et puis, il y a la résurrection, où toute chair, à la suite du ressuscité, sera relevée. Le christianisme est une religion de l'incarnation. Le mot « charnel », qui est très négativement connoté dans nos milieux, sans doute à cause d'une lecture sans nuance de la pensée de Paul et de Jean, ce mot « charnel » désigne au contraire la réalité humaine dans toute sa complexité, sa finesse et son unité. L'âme, c'est cette capacité du vivant, de l'homme fait de souffle, de chair et de sang, à se tourner vers Dieu. L'âme, ce n'est pas, comme on le croit souvent, la partie pure, immergée et prisonnière d'ailleurs de cette humanité que Dieu... et Dieu séparera dans cette humanité à la fin les choses, l'âme et d'un côté le corps de l'autre, le corps impur à la fin de nos jours. Non, dans la vision biblique, il n'y a pas des âmes à sauver, il y a seulement des gens à sauver. Dieu s'intéresse autant à nos sensibilités, à nos désirs, à nos émotions, à nos besoins physiologiques, qu'à nos convictions théologiques, nos catéchismes et nos pratiques religieuses. La vision biblique, une fois de plus, elle trouve son originalité dans un double refus. Le refus du mépris du corps et le refus du culte du corps. Elle se situe ailleurs, dans cet accueil, cette valorisation de l'œuvre créatrice de Dieu. Quand il nous a créés, il a dit « très bon, hommes et femmes de chair, de sang et d'esprit ». Mais le corps, c'est aussi ce qui nous met en mouvement les uns vers les autres, en relation les uns avec les autres. Dieu nous donne un corps pour ça, pour la relation. Jésus n'a pas limité son activité à créer des relations duelles, interpersonnelles, puis à reprendre son chemin. Non, les paroles et les actes du Christ ont mis en mouvement des gens derrière lui qui se sont retrouvés compagnons de route. C'est pas tellement que je suis ou que je me sens être un être communautaire qui fait que je suis là ce matin. C'est parce que, en suivant les traces du Christ, j'en ai rencontré plein d'autres, comme vous, qui cherchaient exactement la même chose que moi. Je découvre, dans ce mouvement d'individus qui vont à la suite du Christ, une foule de frères et de sœurs. Et finalement, je pourrais dire que ce n'est pas nous qui voulons faire Église. Si l'homme est un être social, comme l'a écrit Aristote, je ne pense pas qu'il soit un être ecclésial. Mais il répond à l'appel du Christ à venir à sa suite. Et c'est là, chemin faisant, qu'il se retrouve avec plein de gens, des frères et des sœurs. Et nous sommes agrégés, quelquefois, à notre corps défendant, à ce corps nouveau, spirituel qu'est l'Église. Nous sommes le corps du Christ, comme l'écrit Paul, avec cette inspiration géniale. C'est ainsi, nous sommes le corps du Christ, à notre corps défendant. À cause de cette rencontre avec le Christ, nous éprouvons un sentiment nouveau, un sentiment de solidarité. nous ne sommes plus seuls. Nous nous aimons les uns les autres. La foi en Christ nous fait donc atteindre, plus encore que des sommets de spiritualité, des sommets d'humanité. Elle nous rend proche de tous les hommes. Et c'est ce que Paul nous décrit ici avec sa métaphore du corps. C'est que l'homme qui s'attache au Christ ne peut plus vivre dans l'indifférence de ses semblables. Parce que nous sommes chers, nous vivons au rythme, à la pulsation de ceux qui, comme nous, ont un corps et font route avec le Christ. Par nos corps, nos regards, nos gestes, nos paroles, nous nous attachons les uns aux autres pour le meilleur, l'entraide, la confiance, le partage, l'amitié, la louange, ou pour le pire, la transmission de virus en tout genre, dont certains, comme la passion du profit ou l'instrumentalisation des autres à nos propres fins, sont bien plus à redouter que la Covid-19. La foi au Christ fait de nous des êtres en relation. Et je suis très mal à l'aise avec ces nouveaux comportements ecclésiaux 2.0 qui ont pris ces habitudes de vivre la foi et la vie d'église devant l'écran d'ordinateur. Un culte, un dimanche à la méga church de San Francisco ou de Mulhouse, une réunion de prière live à Paris le lendemain et un chat avec des frères et des sœurs super quelque part sur la toile. Et voilà, tout cela à l'apparence de l'Église, de la fraternité, de la spiritualité, mais ce n'est qu'une illusion. Bien sûr, je le dis ce matin devant une Église vide, quasi vide. Bien sûr, nous traversons des temps difficiles et les moyens qui sont mis à notre disposition, et encore merci à tous ces jeunes qui sont à la technique et qui diffusent le culte, ces moyens sont nécessaires et fort utiles. Mais il faut les considérer comme transitoires et exceptionnels. Ils n'ont pas vocation à remplacer le corps du Christ. Nous faisons corps les uns avec les autres. Lorsque deux membres sont dans la joie, comme Mathilde et Raphaël aujourd'hui, vous comprendrez tout à l'heure, ben nous le sommes aussi. Quand un membre souffre, les autres souffrent avec lui. Et puisqu'il s'est passé des choses importantes aux États-Unis, moi j'aimerais qu'on cite plutôt, pour prendre un peu de hauteur, le pasteur Martin Luther King, qui dit en 63, « Nous ne saurons être satisfaits tant qu'un noir en Mississippi n'aura pas le droit de vote. » C'est pour cela que le Christ bâtit son Église. Pour que les plus fragiles, les sans-voix, les exclus, trouvent une défense, trouvent des appuis, retrouvent la dignité et la joie qui est perdue. L'Église n'est pas un club où l'on vient par affinité retrouver ses copines et ses copains, n'est pas un lieu où on vient par intérêt ou par choix, parce que la tête du pasteur vous revient mieux que la tête du pasteur d'à côté, ou que le type de service, de prestation de service, vous convient mieux ici plutôt qu'ailleurs. L'Église, c'est le corps de Christ. Cette réalité que lui seul choisit et qu'il construit et à laquelle il nous fait appartenir. S'il veut l'Église pour nous, c'est parce qu'il veut que notre foi se construise et se fortifie dans la relation aux autres et pour le service des autres. Ceux qui nous sont donnés, qu'on n'a pas choisis. Relevons enfin que l'image du corps, si elle nous enseigne que nous sommes tous reliés et dépendants, interdépendants les uns des autres, l'image du corps nous dit aussi une chose très importante. Elle nous dit que nous devons être à notre place. Ou plutôt, le Christ nous appelle à y venir à cette place, à trouver notre place. C'est une grâce pour chacun, pas toujours facile à faire. Certes, il faut qu'il y ait parmi nous des cerveaux, des sages, des visionnaires, des gens de la parole, mais il faut aussi qu'il y ait des gens avec de grands cœurs et d'autres encore avec des mains qui réparent tout et qui ont du temps pour ça, ou en tout cas qui savent le prendre. Et encore d'autres avec des pieds qui savent faire avancer les choses. Et on pourrait ainsi multiplier les exemples pour dire cette pluralité. Toutes ces différences qui nous caractérisent, elles ne sont pas, ces différences, une conspiration contre l'unité fantasmée, qui ne serait d'ailleurs au fond qu'une uniformité malsaine. La pluralité des membres permet à l'ensemble du corps d'avoir accès à toutes les dimensions de sa vie. Il y a là une sorte d'éthique qui permet à chacun de voir son bonheur augmenté par la présence et l'expression de l'autre différent. C'est une chance de vivre dans une pluralité pareille. C'est d'ailleurs le lieu et la condition de la croissance de notre foi et de nos communautés, une croissance authentiquement spirituelle. Alors ne soyons pas inquiets d'entendre penser, parler, prier, louer, chanter différemment de nous, mais voyons-y plutôt un appel de Dieu à devenir fort, à devenir plus riche, plus croyant, plus heureux, parce que nous sommes ensemble. C'est ça, c'est à cette seule condition que nous serons ensemble, corps du Christ. Amen.